Bonjour, je suis Carlos Cano, je viens de Bilbao, j'ai 33 ans.
Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, je suis iranien.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis américaine, je vis à Paris depuis 8 ans. Je suis venue pour le travail et ensuite j'ai resté pour l'amour.
Parlez-vous Paris?
Regardez autour de vous.
Parlez-vous Paris?
C'est absolument exceptionnel.
Waouh, super.
Parlez-vous Paris?
De vive voix.
Pascal Paradou.
Parlez-vous Paris, c'est une chronique de RFI sur le site Français Facile. Messieurs, surtout la grande question de Gilles Siouffi qui consacre son nouveau livre à l'histoire linguistique d'une ville-monde, à savoir Paris. Bonjour Gilles Siouffi.
Bonjour.
Professeur en langue française à Sorbonne Université, spécialiste de l'histoire donc de la langue française. Vous avez beaucoup travaillé sur l'imaginaire de la langue, notamment au XVIIe siècle, donc sur la constitution des normes du français, mais aussi sur la diversité des usages. Mais votre livre « Paris-Babel » ne s'arrête pas au XVIIe siècle, il est beaucoup plus vaste. C'est un panorama, parfois très savant, qui va du IIIe siècle avant Jésus-Christ à aujourd'hui, c'est-à-dire au lendemain des Jeux Olympiques. Donc, la question « Parlez-vous Paris ?», c'est une question vertigineuse pour vous. Y a-t-il un parler parisien? C'est un des sujets du livre.
C'est un des sujets du livre. Effectivement, l'idée du livre est partie du constat qu'aujourd'hui, quand on sort dans la rue à Paris, il y a une bonne chance pour que la première langue qu'on entende ne soit pas le français. Donc Paris est très multilingue aujourd'hui. Et j'ai voulu mener l'investigation sur l'histoire de cette ville qui a été à la fois le centre, on peut dire, de la standardisation du français. Et en même temps, en tant que très grande ville, ce que j'ai appelé ville-monde, elle a été un creuset de toutes sortes d'immigrations, de langues différentes. D'où le titre Paris-Babel. Alors maintenant, quand on parle de « Parlez-vous Paris ?», vous posez la question, est-ce qu'il existe un parler parisien? On peut dire que oui, à certaines époques. Aujourd'hui, c'est bien plus discutable, la situation linguistique est beaucoup plus complexe. Effectivement, Paris a été le creuset de langages de toutes sortes de populations, d'artisans, de domestiques, etc. Il y a eu un Paris populaire qui a développé ses propres usages, parfois par quartier, parfois par métier, avec des argots, entre guillemets. La notion est très fluctuante selon les époques. On a même parlé de Parigot, hein, qui est une sorte de composé entre le parisien, la variété populaire de parisien, et les argots. C'est une notion qui date de la fin du 19e siècle.
Et vous insistez sur le pluriel, les argots. C'est
oui.
Pas l'argot, hein, c'est pas les films de Audiard. C'est les argots, c'est-à-dire que c'est le français influencé par le picard, l'auvergnat, le savoyard, etc., etc.
Alors l'influence des langues régionales, c'est peut-être encore un autre sujet, effectivement. Mais la définition technique de l'argot au départ, c'est un langage clos, un langage propre à une communauté, à un métier. Donc, on a considéré qu'il y avait plusieurs argots, fatalement. Des argots de différents métiers qui pouvaient se côtoyer. Ensuite, au fil du temps, il y a eu une espèce de façon de concevoir un argot au singulier qui s'est trouvé progressivement assimilé aux Parisiens populaires. Ça, c'est typique de la fin du 19e, début du 20e. Je dirais que le grand moment de l'argot, c'est la fin du 19e jusqu'aux années 60. Et à partir des années 60, ça se redéploie dans autre chose.
Mais on en trouve trace, en tout cas c'est ce que vous nous racontez dans ce livre Paris-Babel, dès la Renaissance, sous François Ier, il y a déjà des premières traces de français populaire et donc d'argot.
Absolument, oui. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que le premier dictionnaire d'argot, Olivier Chéreau, précède le premier dictionnaire de l'Académie française. Moi, je trouve cette constatation historique et purement factuelle assez amusante. Le jargon de l'argot réformé d'Olivier Chéreau, 1628, avant la création de l'Académie française. Il s'agissait d'essayer de donner des clés à un public bourgeois qui entendait des mots un peu étranges, un petit peu obscurs, et essayer de les initier à cette sorte de secte, en quelque sorte. Il faut rappeler que le mot argot, à l'origine, désigne les gens, la communauté. On les appelait les argotiers. Et donc, il y avait un jargon de l'argot. Et puis, petit à petit, ça désignait la variété de langage.
Des argots et des accents, il y en a beaucoup à Paris. Et Ferdinand Bruno, qui était un linguiste du 19e siècle, début 20e, a enregistré les gens de son époque. Ce sont les archives de la parole. Et on peut y entendre notamment un tapissier du 14e arrondissement. J'ai bien dit 14e arrondissement, parce que la géographie de Paris est très importante. Il est enregistré en 1912, avant la Première Guerre mondiale.
Il y a des gens m'ont dit des fois, « Ah, mais prenne ce garçon dans sa conversation, là. » Je disais, « Non, pourtant, il me semble que c'est tout naturel. » Mais alors là, vous savez, j'ai un accent absolument presque de la Villette, on dirait.
La Villette ? Ne croyez-vous pas que c'est une grande différence, justement, entre l'accent de la Villette et le Vaud ?
Alors peut-être, je ne sais pas, mais c'est déjà...
Vous qui êtes de Paris, est-ce que vous ne reconnaissez pas, justement, quelqu'un qui est de nos arrondissements ?
Ah, absolument, si, il y a réellement des différences.
Quelqu'un qui s'est beaucoup occupé de ça me disait, par exemple, qu'il reconnaissait du premier coup un habitant du 14e et un habitant de Montmartre.
Ah, peut-être, mais enfin, il me semble qu'à l'époque, c'est une étude assez sérieuse.
Alors, l'étude sérieuse, la voilà, Gilles Soufi, c'est votre livre, Paris-Babel. Aujourd'hui, ce serait quoi se parler parisien ? Parce que là, on voit bien que d'un quartier à un autre, du nord au sud de Paris, c'est pas tout à fait la même prononciation, la même langue, la même grammaire. Aujourd'hui, ça serait quoi la langue des Tessis, des cités ?
Alors, bon, effectivement, la différence entre Paris et banlieue, c'est quelque chose qui va apparaître au fil de la dernière moitié, de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment avec la construction du périphérique, hein, qui est achevé en 1973 et qui va couper en quelque sorte Paris intramuros de sa banlieue. Mais avant cela, il y avait des identités propres de certains villages. Et dans le livre, je raconte qu'il y a certains villages comme Chaillot, Montmartre. Alors il évoque Montmartre, hein, qui pendant longtemps a été un village séparé de Paris. Et il y avait des identités assez locales. Sarcelles, par exemple, qui a donné lieu à ce qu'on appelait au XVIIIe siècle les sarcelades, des imitations farcesques, burlesques d'un parler supposément spécifique à Sarcelles. Donc il y avait toute une géographie, effectivement, que le tapissier évoque, hein, géographique, mais aussi sociale. Dans l'enregistrement qu'on a entendu, on voit bien la différence d'accent entre Ferdinand Bruno, bon, qui est d'origine lorraine, mais enfin qui vit à Paris depuis très longtemps, et qui est un bourgeois, et qui a ce parler pointu, ses nasalités, ses dés, etc. Et puis, les voyelles très ouvertes, très longues de ce tapissier qui signale vraiment un caractère beaucoup plus populaire.
Alors, ces parlers, bien évidemment, évoluent selon les époques. Vous parlez d'une grande métisserie. Cela veut dire quoi ? Paris comme le lieu, le laboratoire d'une grande métisserie.
Disons que ça a été un creuset qui s'est dirigé vers le français, avec l'absorption de nombreuses populations issues de pays étrangers qui avaient d'autres langues, mais qui ont adopté le français et qui ont apporté des éléments au français.
Et puis, qui ont adopté le latin aussi. Enfin, le français a absorbé le latin.
Ah oui, alors bon, si on remonte à des époques très anciennes, on remarque que Paris, disons, a été le lieu d'un plurilinguisme plus important qu'on pense, notamment par la survie très tardive du latin. Jusqu'au XVIIe siècle environ, il y avait quand même encore du latin oral, qui était puis évidemment bien très éloigné du latin de Cicéron. Hein. C'était ce qu'on appelait le latinum grossum, le bon gros latin, bon baragouiné en quelque sorte, qui était une sorte de langue véhiculaire, comme on dirait aujourd'hui, entre érudits, étudiants, etc. Parce que Paris a été un centre étudiant très important. La Sorbonne est quand même une des plus anciennes universités d'Europe et qui a accueilli un grand nombre d'étudiants de toute l'Europe. C'était un creuset plurilingue, là aussi.
Et aujourd'hui, il se parle combien de langues à Paris ? Vous dites une centaine ?
Oui, alors c'est très difficile. Sincèrement, là, ce genre de chiffre est vraiment très approximatif. D'abord, tout dépend de ce qu'on appelle langue, à quel moment on arrête, disons, la séparation entre des parlers. Moi, je préfère, disons, la notion de parler langue. Après, c'est une discussion souvent politique, hein. Mais... entre 100, 150, c'est vraiment très difficile à estimer parce que là, pour le coup, il y a certaines langues totalement invisibles et totalement inconnues, probablement aujourd'hui à Paris, qui se parlent dans des cercles familiaux et qu'on ne soupçonne pas.
En tout cas, c'est énorme quand même.
100, ah oui, 150 bien sûr, langues, c'est très plurilingue, mais on s'en rend compte quand même quand on se promène dans la rue.
Une multitude de langues, donc, aussi sur les dance floors, c'est le moment musique dans De Vive Voix avec Jojoa et Lieutenant Nicholson. Leur cinquième album est prêt, Danse Divine.
dandine dedans, dedans sa dandine. Si ça ne t'ennuie pas, ça t'ennuyait pas. Dis aussi dandine,
sa dandine dedans. Banaloba,
Madoué,
Béniquette,
sur nos têtes,
que le ciel
ne tombe pas.
Tiens, Bélé,
pas molli,
rebondis,
sa dandine dedans, dedans sa dandine. Si ça ne t'ennuie pas, ça t'ennuie pas.
Sur RFI, Jojoa, Elliot Nicholson pour le rythme et Gilles Siofi aujourd'hui, notre invité pour son livre extraordinairement érudit et passionnant sur l'histoire linguistique de Paris, qui est bien sûr lié à la démographie et à l'histoire politique. Quand par exemple Henri IV, le Béarnais, devient roi de France, on va parler davantage gascon à Paris. Il y a une conséquence immédiate.
Oui, c'est assez intéressant quand même de voir qu'un certain nombre de rois ou de reines n'ont pas été au départ francophones. Hein. Catherine de Médicis, Henri IV, Marie de Médicis, le jeune Louis XIII a grandi dans une cour qui était probablement assez bigarrée, hein, avec des artisans qui parlaient gascon, effectivement, qui ont été amenés dans le sillage d'Henri IV, des Italiens. Et c'est pas un hasard si le premier purisme, une trace importante de purisme qu'on a avec Malherbe, ce qui est venu à la cour en 1605, c'est vraiment justement parce qu'il y avait une cour très bigarrée là, et Malherbe s'en est offusqué, il parlait de dégasconner la cour, son expression.
et les Italiens, vous citez les Médicis, la présence des Médicis à Paris, par les femmes notamment, va faire que l'italien s'infiltre dans la bande-son de la ville et dans la langue française. 400 mots italien.
La bande-son de la ville, j'aime beaucoup cette expression. C'est un peu ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, une bande-son, mais sans le son, pour ainsi dire, en l'écrivant. C'est un peu frustrant.
On l'entend un peu, merci. Et il y a toujours cette présence très, très étonnante, enfin, en tout cas pour le lecteur que je suis, cette espèce de non-coïncidence entre la langue orale et la langue écrite, comme s'il y avait une disjonction entre ceux qui s'écrivaient. On ne va pas refaire l'ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier, etc., où tout d'un coup le français devient la langue administrative, et cet autre français qui se parle.
Tout à fait. Alors là, une grande difficulté, c'est qu'on n'y a accès que par des représentations livresques, écrites, ou des caricatures. Donc c'est un peu difficile de reconstituer ce qui était authentiquement parlé. On n'a pas d'enregistrement, bien sûr. Mais ce qui m'a fasciné en creusant des détails, parce que je trouve que c'est toujours j'ai essayé de me focaliser sur certains épisodes et de creuser, parce que c'est dans les détails que des choses importantes apparaissent. Et justement, l'oral est capable de toutes sortes d'extravagances quand on creuse. Aujourd'hui, on s'en rend compte, et ça offusque beaucoup des puristes aujourd'hui, ce qu'on fait avec le français, parce qu'on manipule la langue beaucoup. Et dans l'histoire, il y a des traces de manipulation insensées. Enfin, les inversions de syllabes qui datent pas d'aujourd'hui. Le verlan ne date absolument pas du XXe siècle. L'ajout de sons, on met des F et des V au milieu des mots, ce qu'on appelait le javanais, la langue de feu. On ajoute des suffixes tout à fait extravagants, suffixe go, au lieu de dire ici, on dit ici go, ce genre de choses. Et alors, ce genre de choses est passé à la trappe de l'histoire, parce que souvent, on ne sait pas cette histoire-là qu'on raconte. On raconte l'histoire du français écrit, plutôt.
Oui, donc c'est l'oral qui fait vivre le français, mais c'est quand même l'écrit, l'administration qui va imposer, normer le français, et ça c'est au XVIIe siècle. On parle du bon usage.
Le bon usage qui effectivement est tiré d'un modèle écrit et aussi d'un modèle oral extrêmement restrictif. La plus saine partie de la cour, enfin c'est vraiment les personnes qui savent le mieux parler français à la cour, hein, c'est très très élitiste. Oui,
c'est
très
un marqueur social très important.
Un marqueur social très très restreint. Et après, c'est un certain français qui va se diffuser par l'écrit. Et effectivement, je pense, comme beaucoup de langues, le français s'est trouvé sur deux rails à la fois. Un rail de l'écrit et un rail de l'oral. Le rail de l'oral a été en grande partie oublié. Et il est assez difficile d'enquêter là-dessus.
Alors, il y a dans l'histoire du théâtre une scène très célèbre. C'est celle du Don Juan de Molière avec les deux paysannes qu'il cherche à séduire. Mmh. Et elles aimeraient bien se faire épouser.
Ça n'est pas honnête, madurine, d'être jalouse comme mouche de porc. J'ai moué que moche a vu la première. Si vous avez la première, il m'a vu la seconde. Il m'a promis de m'épouser.
Eh bien, que vous ai-je dit?
Je vous baisse les mains. C'est moué, et non pas vous, qui l'a promis d'épouser.
N'ai-je pas deviné?
À d'autres, je vous prie. C'est moué, vous dis-je. Vous vous moquez des gens? C'est moué. Encore un coup!
Le bloqué pour le dire si j'ai pas raison!
Le bloqué pour me demander si je ne dis pas vrai!
Mon chou, vous lui avez promis de l'épouser!
Vous vous raillez de moi!
C'est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné parole d'être son mari?
Mais pouvez-vous avoir cette pensée?
Mais vous voyez qu'elle le soutient!
Laissez-la faire!
Mais j'étais moi comme elle a chuté!
Laissez-la dire!
Non, non! Faut savoir la vérité! Il est question de juger son!
Ouais!
Maturine!
Avec cette scène de Molière, on entend Gilles Siouffi, les deux registres très différents, le parler aristocratique et le parler populaire, avec ces élisions et puis ces airs roulés qui est très caractéristique de la façon dont on parlait au XVIIe, même au XVIIIe siècle.
Bien sûr, le R était majoritairement roulé, quoique notre R d'aujourd'hui, le R grasseillé en quelque sorte, est censé être d'origine parisienne. Hein. C'était un marqueur social de classe élevée parisienne. Mais ce qui est assez frappant avec Molière, c'est que précisément, c'est un manipulateur de langage. Le français de Molière, entre guillemets, est truffé d'inventions, de torsions. Il y a du faux latin, il y a des fausses langues régionales, enfin plus ou moins fausses, plus ou moins adaptées, etc. Donc il s'est vraiment régalé justement dans tout ce que l'oral peut faire à une langue.
Alors il faut noter, parce que votre livre, je le disais, est très savant, que la totalité des nobles savent lire au XVIIe siècle, dites-vous, et la moitié des domestiques,
hommes.
C'est pas rien, hommes.
Oui, voilà, parce qu'au XVIIe siècle, il y a encore une grosse différence entre hommes et femmes. Oui, il y a une énorme différence sociale d'accès à l'écrit au XVIIe, qui va être en partie comblée au XVIIIe, parce qu'au XVIIIe, on va voir des gens, des blanchisseuses, des ouvriers vitriers, qui lisent et qui écrivent. Ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport au siècle précédent. Et là, on a quelques témoignages très intéressants que je cite dans le livre.
Avec un français qui s'est normalisé donc, au cours du XVIIe siècle, c'est là que l'Académie française est créée, etc. etc. Puis, forcément, on est obligé d'aller un peu vite. Hein. Au XVIIIe siècle, ça bouge encore dans le français, dans la langue, avec l'arrivée des étrangers, des Anglais, des Russes, vous dites aussi même l'arrivée des premiers Asiatiques ou des premiers Noirs africains du fait des colonisations, des premières colonisations.
Alors là, c'est plutôt au 19e. Effectivement, les Anglais, ça a commencé au 18e. Il y a une première vague d'arrivée des Anglais à Paris, essentiellement touristique, enfin disons des Anglais de la classe supérieure, qui venaient faire une sorte de tour des monuments, de la société, des salons, etc., qui ont beaucoup participé à la vie intellectuelle parisienne. Et ça, ça va continuer dans le premier 19e siècle. Paris va devenir le creuset d'une vie artistique et intellectuelle européenne. Et là, il y aura toute l'Europe qui va arriver à Paris. Et ce livre est une histoire linguistique, mais aussi une histoire humaine et culturelle. J'ai essayé de décrire décrire ces mélanges qui se sont, dans l'ensemble, rassemblés autour de la langue française.
On apprend aussi, en vous lisant, J. Tufi, qu'il y avait par exemple 4000 Noirs à Paris pendant la Révolution.
Oui, alors ça, il y a eu un mouvement à la fin du XVIIIe siècle où les familles, les grands propriétaires des Antilles, notamment, avaient pris l'habitude de venir à Paris avec leurs esclaves noirs. Et ça a créé un peu des difficultés. D'ailleurs, la police les recensait tous nommément un par un et les accusait parfois de causer des troubles. Et à la Révolution, au contraire, donc, il y a eu cette société des Amis des Noirs qui a défendu leur présence à Paris, et ils ont été beaucoup plus présents. Il y a eu aussi des personnages assez célèbres, le père d'Alexandre Dumas, etc. Donc le regard sur les Noirs a complètement changé entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe.
Mais ça veut dire qu'on parlait créole à Paris à la fin du XVIIIe, début du
XIXe. C'est le moment où on a commencé à l'entendre, oui, absolument.
Donc
oui.
Une langue qui se rajoute. Alors, vous parliez du père d'Alexandre Dumas. Voici l'auteur, le fils des Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo, que l'on peut entendre à la Cité internationale à la langue française à Villers-Cotterêts, où des chercheurs, dont vous d'ailleurs, je crois, ont tenté de reconstituer la voix.
Je suis né le 24 juillet 1802, rue de Lormet, dans la maison appartenant aujourd'hui à mon ami Cartier, qui voudra bien me la vendre un jour pour que j'aille mourir dans la chambre où je suis né, et que je rentre dans la nuit de l'avenir au même endroit d'où je suis sorti de la nuit du passé.
Gilles Siouffi, début du XIXe siècle, la voix reconstituée ou imaginée d'Alexandre Dumas, c'est notre français aujourd'hui, avec une prononciation un peu plus appuyée.
À peu de choses près, avec probablement encore des roulements de R. À peu de choses près. Oui, l'oral va aussi subir l'influence de l'écrit. C'est-à-dire que plus on lit et plus on écrit, plus on a tendance à prononcer les mots comme on les lit. Et ça, c'est un phénomène qui a été étudié par les linguistes. C'est une rétroaction, pour parler avec un petit peu de jargon, de l'écrit sur l'oral. Par exemple, à la fin du XVIIIe, le pronom « il » était prononcé « i ». Et c'est devenu ensuite un marqueur très populaire, ça. Mais on a reprononcé « il » parce qu'il y avait, ce « elle hein ».
Donc le français est fixé à cette époque-là, au XIXe siècle, mais pour autant, les grandes migrations ne sont pas terminées et l'histoire linguistique de la ville continue à évoluer. Et vous dites que c'est à ce moment que Paris devient cosmopolite et que ça va culminer finalement avec la période des grandes expositions universelles, c'est-à-dire fin XIXe, début XXe.
Oui.
Et là, tout d'un coup, c'est le monde qui arrive à Paris.
C'est le grand moment de Paris. D'ailleurs, au niveau démographique, c'est les années 20 où c'est le pic du nombre d'habitants intramuros. À partir des années 20, Paris intramuros va commencer à perdre des habitants, notamment des classes populaires, avec l'exil progressif des usines qui vont entraîner avec elles les ouvriers. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de classes ouvrières dans Paris. Des classes populaires, oui, mais pas ouvrières. Et Paris a été un emblème de cosmopolitisme. Alors je dirais qu'il y a deux types de cosmopolitisme, si on peut utiliser le même mot. Celui des classes élevées, qui venaient pour des raisons artistiques, intellectuelles, etc. Et donc effectivement, le début du XXe siècle, Paris, c'était une capitale artistique mondiale qui a attiré absolument toutes les nationalités. Et puis le deuxième, c'est un cosmopolitisme un peu forcé pour des raisons économiques, parce qu'il y a eu là des immigrations... notamment d'Europe de l'Est, et puis ensuite d'Espagne, d'Italie, de Portugal, et puis ensuite la décolonisation, etc. Les colonies, la décolonisation, tout ça est un creuset extrêmement divers.
Et c'est vrai que quand on se promène dans Paris, si on va d'un quartier à un autre, d'un arrondissement à un autre, quand on est dans le quartier chinois par exemple, on entend parler, alors non pas chinois seulement, mais une quinzaine,
une quinzaine de langues.
Et c'est vrai dans le nord de Paris, quand on va dans les quartiers plutôt plus africains, on n'entend pas parler juste une langue africaine, mais
bonne.
Bonne cinquantaine, dites-vous. Oui. Vous citez Juan Goytisolo, qui est un écrivain espagnol, qui dit que Paris s'est déseuropéanisé.
Oui.
Et tous les tenants de l'identité française vont s'offusquer.
Et il disait ça dès les années 80. Il était absolument pionnier, bien sûr. Mais c'est ça qui l'intéressait aussi. C'est ça qui lui plaisait dans Paris. Hein. Mais c'est une caractéristique de nombreuses métropoles européennes d'aujourd'hui. Londres, Berlin, on rejoint un peu ce mouvement. Mais dans l'histoire, Paris a probablement été le premier lieu où ça s'est fait. Parce qu'au début du XXe siècle, c'était la ville où il y avait le pourcentage le plus important d'étrangers. Même par rapport à Londres ou par rapport à des capitales comme Vienne, qui était la capitale d'un empire multilingue, mais qui était une relativement petite ville. Paris, c'était vraiment une ville absolument considérable. Et donc, une partie du mouvement du XXe siècle, dont est les fruits, a commencé effectivement à Paris.
Donc c'est la nature même de Paris d'être cosmopolite et d'accueillir le monde.
Oui, et ça même était un emblème, puisqu'on en a fait, il y a des institutions politiques. Paris est le siège de l'UNESCO, par exemple, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Entre les deux guerres, il y a eu la création de la Cité internationale pour les étudiants. Donc il y a eu une volonté aussi d'internationalisation de Paris.
Et dans votre livre, vous allez jusqu'à aujourd'hui, par exemple, avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens en 2022.
Bien sûr, ben oui, voilà.
Parce que, bien évidemment, ça bouge un peu le paysage linguistique de la capitale, on entend parler ukrainien et on ne dit pas forcément c'est du russe. On se dit, ah, ils sont peut-être ukrainiens.
Oui.
Ça, c'est l'observation de celui qui prend le métro ou le bus assez régulièrement. Oui. Paris et le monde se sont babélisés. Je reprends là le titre de votre livre, Paris-Babel. Vous terminez ce roman. Ce n'est pas tout à fait un roman, mais ça se lit comme ça, vraiment, avec beaucoup de passion. Vous terminez avec une conclusion assez optimiste et assez ouverte. Que fera le monde de cette richesse ?
Oui, voilà, parce qu'on pose souvent la question, mais à votre avis, monsieur Soufi, que va devenir la langue française ? Est-ce qu'on n'est pas envahi par l'anglais ?
Vous voulez que je vous la pose ? Monsieur Soufi, est-ce qu'on ne va pas être envahi par l'anglais ? Que devient la langue française ?
Il me semble qu'il y a des pays européens où l'anglais est plus présent qu'en France, avec des langues beaucoup moins représentées. Je pense à la Finlande ou Pays-Bas, etc. Et que je sache, le finlandais ou le néerlandais ne sont pas en voie de disparition. Bon, premier point, mais surtout, il me semble que la vie, entre guillemets, linguistique d'un lieu, parce que je n'ai pas raconté la vie d'une langue, je n'aime pas trop cette expression, mais j'ai raconté la vie d'un lieu, c'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus concret. Ça comporte une part d'imprévisible en permanence. Et je pense que nous ne savons pas du tout de quoi l'avenir est fait. Qui aurait pensé qu'il y avait ces dizaines de milliers d'Ukrainiens qui seraient arrivés à un moment donné à Paris, qui auraient apporté cette nouvelle langue ? Donc, je pense qu'il faut toujours rester adroit et habile avec les situations et ne pas projeter des schémas du passé sur l'avenir qui nous échappera toujours d'une manière ou d'une autre.
Et se dire que la langue française peut résister parce qu'elle a traversé quelques siècles, mais en même temps, elle n'est pas immuable.
Ce livre le montre. J'espère aussi qu'elle a bien résisté.
Merci beaucoup, Gilles Soufi. Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde, est édité chez Actes Sud. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, vous pouvez nous réécouter sur rfi.fr. Vous pouvez aussi télécharger l'application Pure Radio et vous abonner. C'est gratuit, c'est facile et c'est rapide, surtout. Dans quelques secondes, le journal, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.